Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Canu Info. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et voilà pour nous ce soir une nouvelle manière de diffuser cette émission. Nous sommes bien en direct, mais rien ne nous arrêtera, ni couvre-feu, ni confinement, ni cette cochonnerie de virus. Nous allons vous raconter tout plein de choses ce soir. Alors, avec Laurent, nous parlons beaucoup d'informations radioactives, nous parlerons aussi de sociétés autoritaires. On aura peut-être un peu d'infos économiques, mais c'est vrai que pour commencer, j'avais quand même envie de saluer cette bien bonne idée que ont des gens de vouloir sortir de ces histoires de couvre-feu, de confinement qu'on nous oblige, que ce vilain gouvernement nous impose, parce que c'est vrai que les pires, ceux qui vraiment subissent et ont besoin de se défouler, c'est quand même les bleus. Hein, vous avez donc tous et toutes entendu parler de cette affaire du commissariat d'Aubervilliers, où une trentaine de personnes ont mangé des petits fours, bu, se sont bien amusées. Et alors le pire quand même dans cette affaire, voyez-vous, c'est est-ce que ce sont des policiers? Vous savez, ces gens qui ont prêté un certain devoir, en tout cas à la nation, en tout cas c'est ce que beaucoup à l'extrême droite et à la droite leur rappellent, même à la gauche d'ailleurs. Nous on leur demande rien, donc ça va plus vite. Avec nous ils sont plus tranquilles, hein, de ce côté-là. D'avoir dansé sur des chansons pourries, qui n'est pas le pire finalement, d'avoir bravé ce couvre-feu et ce confinement en étant en plus sur leur lieu de travail. Est-ce que tout ça n'est pas horrible? Ou alors est-ce que peut-être que c'est la sous-préfète, hein, Mireille Ingelenbier, qui a quitté son poste en Ardennes, dans les Ardennes à Rethel, et qui, là aussi, avec une soixantaine d'invités, alors il paraît que les gens étaient masqués, mais enfin pour boire le champagne qui accompagnait le départ de cette dame, de cette sous-préfète, il a bien fallu enlever son petit masque. Alors donc, quand ce sont des teufeurs et des teufeuses qui s'organisent, alors certes, vous allez me dire, la dernière fois, ils étaient très nombreux et très nombreuses dans un hangar, on en fait des choux gras pendant des jours et des jours, et puis quand c'est les autorités de l'État, que ce soit les forces de l'ordre ou la préfecture, du coup, ça semble un peu différent. On sent aussi qu'il y a des médias qui traitent cette information de manière différente. Et puis, pour finir, dans les gens qu'on n'aime pas bien, je pourrais quand même aussi me moquer d'un autre groupe qu'on apprécie peu dans cette émission et qui en ce moment c'est un des groupes qui font beaucoup parler. Vous savez, c'est les groupes de chasseurs. Alors on entend beaucoup de retours parler de la chasse à courre, puisqu'il y a de la chasse à courre, qu'on a vu des images assez horribles, que heureusement il y a des militants et des militantes, hein, très actifs sur la question. Et puis il y a les chasseurs du quotidien qui s'étaient déjà fait critiquer parce que d'un seul coup, quand tout le monde était confiné, les chasseurs et les chasseuses, ce qui est aussi les femmes, la bêtise n'est jamais genrée, hein, on se le rappelle toujours, on avait pu aller chasser pendant que nous on était cloisonnés, cloîtrés, hein, chez nous. Et ben il y a un cluster dans la vallée du Vic-des-Sauces, ouais, ça nous fait marrer. Alors, c'est quand même marrant parce que c'est quand même censé être un loisir, hein. On rappelle que la chasse, tuer de l'animal, c'est un loisir, c'est pour le plaisir qu'on fait ça, et puis c'est aussi pour l'environnement, paraît-il. Et ben il y a eu un cluster, alors on se demande comment ce cluster à l'air libre a pu émerger. Est-ce que donc c'est la mi-temps, comme dans le sport, où on va picoler tous ensemble et tout ensemble, qui a créé ce cluster? Mais enfin, ça nous fait bien marrer parce que voilà des petites affaires de certains et de certaines dont on fait moins les choux gras que quand ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui vont teuffer, par exemple.
Alors, on va faire une grosse rubrique autour du nucléaire pour poursuivre, mais avant cette rubrique nucléaire, nous allons parler un peu des Jeux Olympiques.
Oui. Alors, c'est aussi une affaire de Covid, mais vous allez voir, c'est marrant. Enfin, en tout cas, si vous n'aimez pas le sport compétition, si vous faites partie des quelques-uns, quelques-unes que nous sommes quand même, et je crois que nous sommes quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à être anti-JO, vous savez qu'il y a en France un groupe, un collectif qui existe contre les JO de 2024 en France. Rappelons-nous, ça va avoir lieu, malheureusement. Vous pouvez rejoindre, hein, les collectifs. Voilà, ça existe d'une manière générale, et puis il y a celui, là, de 2024 qui arrive. Alors là, on va évidemment parler des JO de Tokyo. Vous savez que normalement, les JO de Tokyo, c'était 2020. Alors, les JO de Tokyo 2020 s'appellent toujours 2020, mais ils doivent maintenant avoir lieu en 2021. Ça doit débuter le 23 juillet jusqu'au 8 août, si les dates sont toujours conformes. Mais j'ai appelé cette rubrique « Oui, non, ne sait pas. Parce qu'en fait, il s'agit d'une histoire de personnes. On va ressortir aussi là, le tableau blanc. Alors, il y a Monsieur Suga, vous savez, le Premier ministre japonais, hein, nouveau Premier ministre japonais, déjà depuis quelques temps. Toshiro Muto, qui est le patron des JO de Tokyo. Thomas Bach, ou Bach, ça dépend comment on a envie de le dire, président du CIO. Yoshiro Mori, qui est président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo. On a Taro Kono, ministre de la Défense, de la Réforme administrative. On a aussi Seiko Hashimoto, qui est la ministre des JO. Et puis, dans cette affaire aussi, Jimmy Patronis, responsable des finances de la Floride. Et ces personnages s'entremêlent. Et vous aurez remarqué que dans tous ces personnages, toujours le petit commentaire de ma part, il n'y a qu'une femme. Voilà, c'est encore une fois une affaire d'homme dont je vais vous parler essentiellement. Alors, on a appris par The Times, qui est un journal britannique, que les autorités japonaises auraient acté l'impossibilité d'organiser les JO de Tokyo à l'été 2021. C'est donc l'information qu'on apprend. Mais on apprend que le Comité international olympique, le fameux CIO, a décidé qu'ils auraient bien lieu. Donc là, on se dit, mais c'est qui, du coup, les autorités japonaises? Qui va décider de quoi? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a un sondage. Un sondage n'est toujours qu'un sondage, hein, on en prend note, mais enfin quand même, que 80% des Japonais et Japonaises sont opposés à la tenue des Jeux. Ça monte. C'est un, voilà. 35% seraient carrément favorables à une annulation globale, totale, et 45% à un nouveau report. Mais alors, report après report, on vous laisse penser que pour 2024, ça pourrait être qu'une bonne chose, du coup, pour les Jeux de Paris, parce que plus on repousse, plus c'est problématique, et plus on sent aussi monter quand même une envie d'arrêter ces grands raouts sportifs, on rappelle encore, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Alors, donc officiellement, le CIO et le gouvernement japonais n'ont pas changé d'avis, hein, ça va bien avoir lieu. Il y a des réunions qui ont lieu. Monsieur, donc le Premier ministre japonais, a expliqué qu'il était déterminé, c'est le terme qui est employé, à tenir ces jeux parce que c'était une victoire de l'humanité sur le nouveau coronavirus. Est-on d'accord? Je ne sais pas. De son côté, Thomas, le président du CIO, lui, de toute façon, c'est sa tambouille. Donc il faut absolument que ces jeux aient lieu. On rappelle qu'il y a beaucoup d'argent, encore une fois, dans l'affaire. Donc il a expliqué que ça allait se tenir et que de toute façon, il n'y a pas de plan B. Retenez bien cette histoire du plan B, c'est important. Alors, du côté de Toshiro Muto, le patron des JO de Tokyo, il n'y a pas de discussion à avoir lieu, tout va se faire normalement. À la rigueur, les discussions vont porter sur l'organisation. Est-ce qu'on va raccourcir, vous savez, cette grande fête d'ouverture, la fête d'ouverture où, vous savez, où il y a les drapeaux, hein, avec les gens qui défilent, et puis un petit spectacle et tout ça. Est-ce que donc on va raccourcir? Est-ce qu'il y aura moins de personnes? Comment on va s'organiser, vont s'organiser les villages olympiques, là où on stocke les sportifs et les sportives? Est-ce qu'il y aura des huis clos, des jauges limitées? Donc tout ça, ce sont les discussions, mais il n'y aurait pas de discussion sur le fait que ça soit annulé ou pas. The Times aurait donc eu des mauvaises informations, mais en même temps, on note aussi la position du ministre Taro Kono, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ministre important au sein du gouvernement japonais, qui lui a expliqué que tout pouvait arriver. Il a l'air beaucoup plus sceptique et il a ajouté « il faut réfléchir à des plans de secours ». Au cas où, bien évidemment. Alors, ça pose évidemment le problème de savoir comment les sportifs s'organisent d'ici là. On entend des fois dans les médias, on peut lire dans les médias que les sportifs français, les sportives françaises sont désespérés de ne pas savoir s'il faut s'entraîner ou pas durement pour ces JO. Ça pose aussi des questions des vaccins, puisque est-ce qu'il faut ou pas vacciner en priorité ou pas les sportifs et les sportives? On va y revenir. En tout cas, suite à cette annonce, Jimmy Patronis, dont je vous parlais tout à l'heure, les responsables des finances de la Floride, a fait savoir lundi au CIO que son État était prêt à accueillir les Jeux Olympiques de Tokyo si Tokyo ne pouvait plus assumer la responsabilité, l'organisation de ces Jeux à l'été 2021. Donc c'est marrant parce que Jimmy Patronis explique qu'il y a des tas de trucs vachement bien en Floride, que donc il y a les équipements qui iraient bien. On rappelle quand même que ça coûte très très cher au Japon et à la municipalité de Tokyo, cette chose international, hein, c'est quand même des millions qui sont dépensés à chaque fois pour organiser ces jeux, que ça coûte très cher, hein, évidemment, en termes d'impôts locaux et nationaux aux pays qui accueillent, parce qu'il faut construire des routes, il faut construire des transports, il faut construire des bâtiments, il faut réorganiser tout un tas de structures, et donc tout ça coûte très cher, et lui, il explique qu'il a plein de choses, et qu'en plus que ça, la Floride a quand même beaucoup souffert, qu'il y a eu beaucoup de décès en Floride, vous savez que les États-Unis sont beaucoup touchés, ont beaucoup beaucoup de morts, et que ben il y aurait certainement des précautions à prendre, mais qu'en même temps, étant donné que l'État a beaucoup souffert économiquement, ce serait un bon moyen de remonter la pente. On n'a pas compris comment, puisque toutes les études montrent qu'accueillir les JO, ça te met plutôt dans le rouge que dans le vert, mais enfin bon. Donc en tout cas, il y a quand même des opportunistes hein, dans la question. On se demande un petit peu comment tout ça pourrait se passer. Et puis, je vous parlais de vaccins. Alors, la dernière fois, on vous parlait d'Israël, hein, qui vaccine très, très rapidement sa population. Et le Comité national olympique israélien a expliqué mercredi que d'ici mai 2021, donc très, très bientôt, tous les sportifs qui pourraient participer aux JO de Tokyo 2020 en 21, donc, seraient tous vaccinés, hein, que ça allait aller très très vite. Alors évidemment, ça fait un peu du chahut, parce que vouloir privilégier les sportifs et les sportives en vue d'une compétition nationaliste à l'été 2021 plutôt que des soignants ou d'autres personnels, c'est-à-dire prioriser plutôt le sportif et la sportive, ça pose un petit peu des questions en interne en Israël, ça fait débat.
Sauf qu'en Israël, d'ici là, ils auront vacciné quasi tout le monde.
Oui, mais n'empêche que c'est quand même ce qui est annoncé. Donc ça pose un petit peu quand même la question. Et puis surtout, pour l'instant, les JO de Tokyo 2020, ces fameux, n'ont pas annoncé une obligation de vaccin pour les sportifs et les sportives. Alors peut-être que ça va changer, mais tout ça met quand même beaucoup de bazar dans cette compétition qui pourrait très bien être annulée. Nous en serions, nous, particulièrement heureux et heureuses. Et puis surtout, les Japonais et les Japonaises qui se battent actuellement contre ces JO, on serait particulièrement heureux et heureux eux aussi, mais voilà, ça soulève quand même plein de choses, même une organisation sportive, c'est ça aussi qui est intéressant dans tout ce bazar.
Allez, on bascule dans la radioactivité. Alors le Japon est un spécialiste, hein, puisqu'ils ont eu un petit accident il y a une dizaine d'années, presque 10 ans. On va refaire un très rapide brillant sur l'EPR français, qui va pas mieux. Donc 6 mois de retard supplémentaires ont été annoncés sur la mise en route de l'EPR. Donc mi-2026 a priori maintenant, contre fin 2025 annoncé jusqu'à présent. Bon, alors, c'est une explosion assez incroyable du retard et des surcoûts. C'est difficilement imaginable pour le commun des mortels. On rappelle hein, le projet EPR, ça veut dire European Pressurized Water Reactor. Bon, c'est simplement un réacteur à eau sous pression, donc ce qu'il y a à peu près sur 99% des réacteurs aujourd'hui. Réacteur nucléaire, bien sûr. Donc voilà, c'est, 1992, c'est le début, il y a 28 ans, une coopération franco-allemande, hein, puisque c'est Areva avec Siemens. Bon, depuis, Siemens s'est barré, hein, ils ont vu qu'il n'y avait pas forcément de potentiel, puis il y a d'autres raisons, en fait. Hein. Ils ont des trucs de leur côté aussi. Et donc, EDF continue, contre vent et marée, à se battre pour cette EPR, donc qui devait être au départ construit en 5 ans, entre 2007 et 2012, pour un coût de 3,3 milliards. Aujourd'hui, on est à 23 milliards, et donc mise en service mi-2026, d'après l'annonce d'aujourd'hui. 23 milliards, vous imaginez, 3 milliards au départ, ça fait quand même une belle augmentation de coût. Hein. Je ne sais pas quel est l'escroc là-dedans, mais ça fait très très mal. Bon, l'escroc, on le sait, hein, c'est Areva, qui aujourd'hui est intégré à EDF. Hein, il a été intégré au début du gouvernement Macron, avec des milliards, bien sûr, venant de l'argent de l'État. On notera quand même qu'il y a des EPR qui fonctionnent, hein, qui ont démarré, en Chine notamment, les deux en Chine, c'est les deux seuls. Et puis qu'on a appris aussi que les deux en construction en Angleterre, prenaient du retard aussi. Donc c'est à Hinkley Point, en Angleterre. Alors c'est assez drôle de reparler de ces réacteurs, puisque lors du Brexit, fin décembre, Boris Johnson avait dit « Mais vous verrez, l'Angleterre sera plus écolo que l'Europe ». Alors pour l'instant, l'Europe est quand même un peu en avance par rapport à beaucoup de pays au sein de l'Union européenne sur l'écologie. Et c'est l'Europe qui impose plutôt des choses. On le voit avec la France, on est à la rue partout. Et en Angleterre aussi. Et lui, il dit, ouais, on va devenir écolo, tout ça. Alors que non, ils construisent deux centrales nucléaires et qu'il y a un autre projet de centrale nucléaire, EPR, en Angleterre. Donc c'est le beau faux discours bien mensonger de Boris Johnson. En tout cas, en Angleterre aussi, il y a du retard. Alors, l'excuse en Angleterre, c'est le Covid. Ah ben, parce qu'on a reconfiné. Alors ça arrange tout le monde, bien évidemment. En tout cas, ça augmente de 500 millions le coût de cette EPR. De ces deux EPR anglais. Donc voilà, on verra bien. Il y a encore d'autres risques sur l'Angleterre. Ils ne sont pas sûrs du tout d'arriver à faire dans les temps avec les 6 mois rajoutés. Alors, toujours sur le nucléaire, la France, une étude parue aujourd'hui, officiellement sortie hier, mais dont on a eu les conclusions et le détail qu'aujourd'hui, sur l'électricité française. Et est-ce que à l'échéance 2050, on pourrait avoir du 100% renouvelable. Alors, on le sait que c'est possible sans aucun problème. Il y a eu multitude qui ont été publiées, mais des études faites par plutôt des écolos. Bon, on a eu le réseau sortir du nucléaire avait fait pas mal de choses, surtout le réseau de Negawatt, qui est un groupe d'experts qui démontre comment on peut sortir du nucléaire et aller au 100% renouvelable. Mais là, c'est un rapport qui nous est fourni par le réseau de transport de l'électricité, RTE, qui est rattaché à EDF, et l'Agence internationale de l'énergie, qui sont tous sauf anti-nucléaires, qui sont même quasi pro-nucléaires. Et en fait, c'est le ministère de la pseudo-transition écologique là qui leur a demandé un rapport là-dessus, est-ce que c'est possible? Donc ils ont joué le jeu, bizarrement, et ils nous sortent un rapport. Et même l'hypocrite de service, Barbara Pompili, a dit, c'est un rapport qui fera date dans l'histoire énergétique française, et peut-être mondiale, et elle se réjouit que ce rapport démontre qu'on peut basculer d'ici 2050 dans une électricité 100% renouvelable. Bon, elle est comme d'habitude un poil ridicule, puisqu'elle dit ça fera date dans l'histoire mondiale. Il y a déjà des pays, Madame Pompili, qui seront à 99,9% d'électricité renouvelable dans le monde. Donc du coup, le rapport fera pas date, il y a des centaines de rapports là-dessus, et des gens qui ont mis en place les choses, alors que la France, elle ne fait que essayer de mettre en place. Donc voilà, alors on rappelle la feuille de route française, c'est pour l'instant le PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va jusqu'en 2028. Et justement, ce ministère de la pseudo-transition écologique travaille sur 2028-2050. Alors il faut savoir que, normalement, en 2050, les réacteurs actuels seront quasiment tous éteints, tous fermés. Ils seront tous trop vieux, s'ils n'ont pas pété. Ce qui est sur la table, c'est est-ce qu'on construit plein d'EPR, plein d'autres réacteurs, ou est-ce qu'on bascule au 100% renouvelable? Et c'est l'objet de ce rapport. En plus, la France est coincée, elle a signé le rapport, l'accord de Paris sur le climat, donc il faut décarboner. Le nucléaire n'est pas décarboné, est faiblement carboné par rapport au gaz, parce qu'on a que du gaz, nous, à part ça. Donc on en est là de l'enjeu. Alors, c'est un peu détaillé, RTE et l'Agence internationale de l'énergie ont trouvé 4 conditions. Alors je vais aller vite là-dessus, mais ils disent il faut compenser la variabilité des énergies éoliennes et solaires, maintenir la stabilité du réseau, être capable de reconstituer des réserves et des marges d'approvisionnement, et enfin faire évoluer considérablement le réseau électrique. Alors là, c'est comme d'habitude un discours très techniciste où il faut qu'on fasse des investissements et qu'on évolue, qu'on mette du numérique partout, qu'on trouve des alternatives. Voilà. Ils réfléchissent en ingénieurs et ils prennent le problème du mauvais côté comme d'habitude, mais enfin, ils proposent, ils disent que c'est possible si on fait des efforts là-dessus, ce que fait l'Allemagne depuis déjà un certain temps. On rappelle qu'il y a d'autres manières d'agir, notamment sur la sobriété, ils n'en parlent jamais, ils ne remettent jamais en cause le transport automobile électrique, qui est une aberration, le transport individuel, je veux dire, pas collectif. Enfin voilà, donc ça reste un rapport d'ingénieurs, de vouloir toujours faire plus, aller plus dans ce progrès scientifique pas toujours utile. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui va servir aux politiques. Les politiques, on sait, ils sont incompétents dans ces domaines-là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent les ingénieurs qui sont autour d'eux. Les ingénieurs sont issus d'une ou deux grandes écoles françaises, dont ils sont issus de ces grandes écoles, dont le discours est nucléophile. Donc, ils ont grandi là-dedans, maintenant qu'ils sont adultes ingénieurs, ils répètent exactement les mêmes choses que l'école, et on n'a aucune ouverture d'esprit chez ces gens-là. C'est particulier à la France, il y a des pays où les ingénieurs sont bien plus ouverts, l'Allemagne en est un grand exemple. Donc, contre ce discours des lobbies nucléophiles, ce rapport peut être utile à vous. Peut-être plus utile qu'un rapport fait par des vrais écolos. Du coup, on va voir ce qu'il en est.
Voilà. Parce qu'il y a des faux écolos.
Bah eux, enfin le gouvernement, ils sont faux écolos. D'ailleurs, on va en parler.
C'est parce que si je te comprends bien, ça veut dire que il y a des écolos et des décroissants qui nous disent que c'est possible, mais qu'il y a aussi des gens qui sont pas décroissants qui nous disent que c'est possible. Donc en fait,
voilà, c'est ça.
Donc c'est plutôt une bonne chose.
Oui, non, mais on le sait. Voilà. Ouais, alors on va parler de propagande et de nucléaire. C'est souvent très lié la propagande et le nucléaire, notamment en France. Donc là, on arrive aux 10 ans hein, de la catastrophe de Fukushima. EDF a organisé cette semaine un voyage avec la presse. Donc ils ont emmené leurs petits journalistes avec les petits fours, tout ça, à la centrale de Paluel, qui est en Seine-Maritime.
Mais tu n'y étais pas.
Non, ils ne m'ont pas invité, moi. Et puis, je ne sais pas si j'y serais allé. Le 20 janvier, donc c'était hier, mercredi, pour montrer les prouesses de leur force d'action rapide du nucléaire.
La semaine dernière, donc.
Non, le 20 janvier, oui, mercredi, oui, la semaine dernière, on est le 28, c'est ça ?
C'est ça.
Donc cette FARN, c'est donc pour Force d'Action Rapide Nucléaire. Donc cette FARN est composée de 300 agents d'EDF qui vont éviter l'accident nucléaire majeur à partir d'un incident, en notamment rétablissant l'arrivée de l'eau, de l'électricité qui manquerait au réacteur en cas notamment de catastrophe naturelle. Donc c'est un exercice de communication qu'a fait EDF, on connaît, on sait comment ça marche, avec un scénario se rapprochant soi-disant un peu d'une espèce de Fukushima qui aurait lieu en France. Même si le risque de tsunami en France, il est faible, on rappelle que Fukushima c'est avant tout le tremblement de terre qui a tout pété. Voilà. Donc pendant que les journalistes mangeaient leur petit four et regardaient les mecs courir là, et faire croire qu'ils étaient capables de régler un accident, ben, il y avait un incident en cours à la centrale. Bon, ben, ça, c'était le côté drôle. Donc voilà. Alors, bien évidemment, la majorité des médias ont parlé de ce belle intervention, ce beau groupe. Une scénographie digne d'Hollywood, hein, on peut le dire. Donc voilà. Ils ont dit, voilà, à la centrale, il y a une tempête, des inondations, l'électricité est coupée. Regardez, les équipes d'EDF arrivent avec un hélicoptère qui dépose un groupe électrogène de secours parce que ceux de la centrale sont tombés en panne. On rappelle qu'au budget, il y en avait qu'un qui pouvait fonctionner sur les quatre. Un véhicule arrive avec un bras pour enlever des débris, etc. Et ils font tout leur truc, leur démonstration, voilà. Et à la fin, mission réussie, on a sauvé le réacteur. Un truc drôle, c'était beau, propre, presque magique en fait, hollywoodien, et pas du tout réaliste. On rappelle que lors de la tempête de 99, on a failli avoir un incident nucléaire dans la région de Bordeaux. Aucun hélicoptère n'était capable de voler en fait, parce qu'il y avait trop de vent. Donc la centrale, si les pompes tombaient en panne, tout pétait. Voilà, alors c'était grosso modo un beau moment de propagande de la multinationale du nucléaire qui est devenue, et qui est EDF, qui est comme ça depuis déjà les années 70. Et mais du coup, on va reparler de cet incident, puisque pendant qu'il y avait ce truc, il y avait un vrai incident dans la centrale nucléaire dont les journalistes soit n'étaient pas au courant, soit n'avaient pas envie d'entendre parler. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé la veille, en fait, l'incident. Une grosse quantité de poissons sont engouffrés dans les prises d'eau. Alors, la centrale est au bord de la mer, hein, pour refroidir le réacteur. Le circuit primaire est refroidi par un circuit secondaire qui vient de l'eau de mer. Et donc, ils puisent l'eau et des poissons se sont mis devant les grilles et ont ralenti, bouché en partie l'arrivée de l'eau. Donc, c'est ultra problématique. C'est un truc qui est très préoccupant dans les centrales, que ça soit bouché par des algues ou par autre chose. Donc, ils en étaient là. Donc, c'est ces jeunes poissons qui se sont agglutinés. Pour faire ça, EDF, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé une entreprise spécialisée pour venir les aider à enlever les poissons. Donc, la veille et le jour même de l'intervention. C'est drôle, parce qu'ils avaient ce groupe d'intervention avec 300 personnes disponibles pour intervenir en cas d'incident. Et ils leur ont pas demandé d'intervenir alors qu'ils étaient là. Ils ont appelé une autre entreprise. Ça démontre bien que ce FARN, en fait, c'était juste des comédiens qui jouaient un rôle sur un scénario préécrit. Mais que si là, c'était en dehors du scénario, les mecs, ils savaient pas faire. C'était juste des poissons dans une grille. C'était donc ultra drôle. Donc ça a été un petit peu médiatisé. Alors la majorité, enfin, EDF n'a rien dit aux journalistes. Il y a 4 témoignages de journalistes qui disent bah non, ils nous ont rien dit lors de la conférence de presse de fin d'exercice. Alors il faut savoir que ils avaient ralenti la puissance des réacteurs et qu'après le départ des journalistes, ils ont été obligés d'arrêter, hein, le dernier réacteur qui tournait. à cause du manque d'arrivée d'eau. Donc c'était très grave la situation. En fait, dans la centrale, ils étaient vraiment bloqués. Donc voilà, ils n'ont rien dit. La majorité des journalistes, a priori, de toute façon, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Donc voilà, c'était le petit exercice qui a tourné court un peu pour EDF. Alors, toujours dans le nucléaire, juste un petit extrait de ce que le Canard a publié. L'info date de la semaine d'avant, même d'une dizaine de jours. Mais on a eu le rapport de l'autorité environnementale autour de Bure. Bure, vous savez, c'est le site où est censé être construit le site d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, il faut mettre sous terre pendant 100 000 ans, fermé, essayer d'oublier, en espérant que personne aille creuser ou qu'il n'y ait pas trop de fuites.
Le problème, c'est justement que l'humanité va oublier, comme elle a oublié dans son histoire que d'autres... Être humain avant avait construit des choses et qu'on les redécouvre aujourd'hui avec l'archéologie.
Et que les archéologues vont.
Et qu'un jour, voilà. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs, tu, dans notre petit papier, notre petite note, tu avais fait un jeu de mots puisque tu as écrit Bure sans lise.
Oui, c'est ça. Donc, ils décrivent rapidement le rapport, hein, sur le type de stockage, le choix de la couche argilite, la localisation des puits, les enjeux environnementaux, la maîtrise des risques, l'autorité. Environnemental a souligné des insuffisances et des incertitudes sur tous les points. Donc c'est mal parti. Et surtout, ils ont condamné l'attitude d'EDF et de l'ANDRA, parce que c'est l'ANDRA qui est derrière, hein, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui depuis 1994 arrose d'argent les communes autour. On est dans une région peu peuplée et eux, ils disent bah, ce serait bien que ça se dépeuple. Parce que si on met un truc comme ça, s'il y a des fuites, autant qu'il n'y ait personne dessus. Donc ils disent, ben, faut surtout pas donner d'argent en fait, aux communes, parce qu'elles s'enrichissent, elles font de plus en plus elles ont des infrastructures attractives, elles vont attirer des gens et on va augmenter les risques. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. On sait que c'est comme ça qu'achètent l'ANDRA, EDF, les endroits où ils vont s'installer, c'est en arrosant les communes. Et après, on découvre des communes qui ont des gymnases, des installations incroyables qu'elles n'auraient jamais pu avoir sans l'arrivée de la radioactivité, en fait. Donc voilà, en fait, ils attaquent un peu sur tous les domaines de la manière de fonctionner et la manière technique d'envisager le stockage. On rappelle que la Finlande envisage un stockage aussi en profondeur sur une roche qui n'a pas bougé depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Or, nous, il faut que ça reste stable pendant 100 000 ans, et on est dans des roches qui bougent régulièrement. Donc c'est incohérent. Le problème, c'est que personne n'en voulait. Donc ils sont allés là où les gens ont accepté l'argent, et on dit, bah oui, on accepte contre de l'argent que vous veniez vous installer. Les communes, les maires et tout ça. Donc voilà, on en est là, j'ai trouvé ça pas mal. Un petit mot très rapide aussi, sur un enjeu qu'on ne maîtrise pas, sur la construction. Et le lobby nucléaire est partout, et c'est assez incroyable. C'est sur la réglementation environnementale, la RE 2020, c'est les normes qui concernent la construction de logements neufs. Dans cette RE, avant c'était la RT, maintenant c'est la RE, ça s'appelle la réglementation environnementale 2020, il apparaît un truc, c'est que dans les constructions, ils ne veulent qu'il n'y ait plus que du chauffage électrique. Alors pourquoi ? C'est parce qu'ils ont pris les chiffres qu'on leur a donnés sur l'impact en CO2, simplement en CO2, du chauffage électrique, qui est effectivement à peu près moitié plus faible que l'impact du gaz d'après l'ADEME. Mais eux, ils n'ont pas pris les chiffres de l'ADEME, ils ont pris des chiffres bien plus négatifs. Du coup, pour les gens qui ont rédigé ça, la seule possibilité, c'est le chauffage électrique dans les constructions pour les nouvelles normes. Alors là, on est dans un truc complètement fou, parce qu'on peut avoir des villes avec du chauffage collectif fait avec du biogaz, donc bien mieux que n'importe quel chauffage électrique, et ça serait plus possible d'avoir ça dans des logements neufs. Donc il y a une mobilisation de 17 associations pour dire à la ministre de la soi-disant transition écologique, Barbara Pompili, il faut que vous fassiez pression pour faire changer ça et pour que le gaz, notamment le biogaz, puisse être intégré au chauffage collectif. On rappelle que les rendements sont bien supérieurs, je ne parle pas de la pollution, les rendements énergétiques d'un chauffage au gaz, c'est bien meilleur sur l'ensemble de la chaîne que l'électricité, qui est issue de moult transformations. Donc là, voilà, et en plus, avec le biogaz, l'impact sur la planète, il est très faible, hein, et voire même plus faible que l'électricité. Donc voilà, c'est juste pour dire que les enjeux environnementaux, ils sont dans des endroits où on ne les soupçonne pas toujours, dans une norme dont le but est d'améliorer l'impact environnemental de la construction. A priori, je ne sais pas qui, mais le lobby de l'électricité, donc sûrement du nucléaire, est arrivé à imposer l'obligation du chauffage électrique. On rappelle que ça fait des gros problèmes en hiver et que en France, puisque la majorité, enfin beaucoup de pays, n'ont très peu de chauffage électrique, voire l'ont interdit, pour dire l'aberration physique que ça peut être. Et puis la bonne nouvelle du jour, c'est le bilan 2020, alors a priori ce coup-ci vraiment fiable, sur la consommation au niveau de l'Europe pour fabriquer de l'électricité. Donc les énergies renouvelables ont été consommées, ont fabriqué 38% de l'électricité en Europe, premier en 2020. Deuxième, le gaz et le charbon, 34%, et troisième, le nucléaire. Ça veut dire que c'est la première fois que le renouvelable est la première source de fabrication d'électricité dans l'Europe. Ça, c'est une énorme évolution. Aujourd'hui, le charbon est même plus concurrentiel face au renouvelable en termes d'économie. Alors, je ne vous parle même pas en termes d'environnement. Hein. Donc voilà, c'est la très très bonne nouvelle. C'est un cabinet qui s'appelle Amber qui a publié cette grosse étude. Donc voilà, ça va dans le bon sens, certes pas toujours dans tous les pays, hein, bien évidemment, mais on a quelques bonnes nouvelles dans ce sens-là.
Alors écoute, je vais faire une petite information économique histoire de te laisser respirer. Ce sera la seule info éco que j'ai du jour. Et j'en suis désolée, elle est aussi liée en partie au Covid. Vous savez que la restauration a évidemment un peu subi depuis mars 2020 quelques contre-coups. Restauration, bar, boîte de nuit, club à danser, événementiel, culture, tout le monde ramasse très fort. Et puis finalement dans la restauration, certains groupes, alors il y a les petits, hein, comme on a beaucoup entendu parler,
qui peuvent s'en sortir pas trop mal.
Ou qui veut se ramasser, mais tout ça aussi dépend beaucoup de ta trésorerie, bien évidemment, du nombre de salariés que tu avais, est-ce qu'il y a de l'activité partielle, est-ce que tu arrives à faire un petit peu
de vente à emporter,
enfin tout plein de choses qui sont très variables hein, des uns aux autres. Il y en a qui ont décidé de rien faire, pourquoi pas. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous êtes restaurateur, d'avoir quand même 10 000 balles qui sont aujourd'hui en subvention, chaque mois, depuis les derniers mois, franchement, s'emmerder à faire un métier qui n'est pas le tien, c'est-à-dire des préparations cuisinées à emporter, moi je comprends que tu gardes fermé ton établissement, que tu payes les factures que tu as à payer et que tu attendes à un moment
que ça ouvre,
de reprendre ton activité et en espérant avoir conservé évidemment ton équipe en place et que tout soit bien facile. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde.
Et les gros, ça peut être plus dur.
Eh bien, ça peut être très facile, on va y revenir après, ça peut être plus dur. Et là, il y a un groupe qui s'appelle Flunch, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle beaucoup. C'est
on va fluncher,
voilà. On sent que certains ont été mangés par la publicité à une époque. Donc, c'est en fait Agape Restauration, c'est Muliez, Auchan, Decathlon, vous voyez. Hein, on a sorti le tableau blanc, là aussi, on a fait des petites flèches. Et on se rend compte, Flunch, que ce n'est pas juste un groupe tout seul, que ça... Quand même, tout ça est très lié. Donc, on dit qu'il y a 5000 salariés et il va y avoir des difficultés puisque là, il y a 1300 postes qui sont concernés par un redimensionnement, comme c'est dit dans le communiqué de presse. Un redimensionnement. Alors, l'idée, c'est de revoir le parc de restaurants. Déjà, quand on commence à parler de parc, il y en a quelques-uns quand même. Alors, il y a 227 restaurants, 66 franchisés. Donc là, on va parler de ceux qui sont en direct. Bien évidemment, pas des franchisés, même si évidemment, on peut penser que les franchisés vont se ramasser peut-être tout seuls la tronche ou peut-être vont s'en sortir. Je ne peux pas vous donner cette information. En tout cas, moins 57% de chiffre d'affaires en 2020. Pouf, c'est pas facile. Donc, il y a les restaurants qui sont détenus en propre en France. Et qui sont en difficulté. Flunch a demandé une procédure de sauvegarde. L'idée, d'aller voir le tribunal de commerce, en l'occurrence celui de Lille, qui va trancher la semaine prochaine, et de voir si on peut laisser un peu du temps pour ne pas payer tout de suite les fournisseurs, pour voir s'il peut y avoir des repreneurs de ces magasins. Alors, a priori, ça va toucher quand même pas mal de postes. Pour les syndicats, c'est un gros coup dur parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de magasins qui soient potentiellement touchés sur Flunch, puisque il va y avoir certainement un plan de sauvegarde de l'emploi. Hein, on va attendre hein, donc, les décisions du tribunal de commerce. Mais évidemment, on est sur un groupe important, donc il va y avoir une consultation avec les représentants du personnel. Mais tout ça va être quand même très compliqué à gérer pour un certain nombre des salariés. C'est un vieux groupe Flunch, c'est ça aussi cette affaire. Et c'est ça que les syndicats veulent aussi pointer. c'est que c'est finalement une vieille maison qui n'a peut-être pas aujourd'hui vraiment repris une certaine image. Vous voyez, c'est un peu vieillot. Ce qui avait été mis en avant dans les Cafeteria Flunch à une époque, l'accueil des familles, les cadeaux aux enfants, tout ça, d'autres le font. Et donc, il n'y a plus une spécificité et ça s'est un peu perdu. C'est quand même une enseigne qui date des années 70, 71, hein, la première ouverture. Donc, c'est un concept vieillot, si vous voulez. Et c'est ça que les syndicats disent aussi sur place, c'est que peut-être qu'on aurait pu réagir au côté vieillot. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est toujours facile pour les syndicats de travailleurs et de travailleuses de venir de se plaindre de tout ça, mais ça veut dire aussi qu'il y a des salariés qui sont là depuis très longtemps et que, comme toujours, quand tu es là depuis très longtemps, tu as un certain âge, une activité un petit peu peut-être très spécialisée, très spécifique dans ton entreprise et que ça va pas être facile. Ce que les syndicats veulent surtout signifier, c'est que c'est pas que la faute du Covid, justement, et qu'il faudrait arrêter de prétendre que c'est que la faute du Covid. Donc voilà, enfin, en tout cas, un nouveau groupe qui est touché par donc les difficultés financières, mais c'est surtout des salariés qui sont touchés. Enfin, nous, c'est en tout cas dans cette émission ce qu'on voit. J'ai noté dans la presse écrite ou sur Internet deux jeux de mots. Sur l'Alsace, la crise pousse Flunch à dégraisser. Ouais, bravo. Et quand Flunch flanche, l'addition est lourde, peut-on lire dans Le Monde, au milieu de l'article. Moi, je vous renvoie surtout, parce que là, je ne pas très rapidement de tout ça, aux articles qui sont sortis sur Alternative Économique, dans Alternative Économique, sur McDo. Un autre gros, avec paquet de restaurants en France, malheureusement. Ce qui est très intéressant dans ces articles, c'est Alternative Économique nous renvoie la méthode McDo pour récupérer tout plein de pognon. C'est pas nouveau, on le sait, mais là, avec le Covid,
ils en profitent.
Ou la Covid, bah, y a de l'opportunité quand même un petit peu dans l'air, donc il y a des profits qui sont faits quand même par McDo, c'est très intéressant. C'est McDonald's profite, vous savez que là, il y a des aides qui sont proposées justement à la restauration pour embaucher des jeunes de moins de 26 ans, parce qu'évidemment, le gouvernement se fait du souci pour ces gens qui sont jeunes, travaillent dans la restauration. Certains venaient juste de finir peut-être l'apprentissage et se retrouvent sans boulot aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de donner un paquet d'aide quand vous aviez moins de 26 ans, enfin vos salariés ont moins de 26 ans. Ça vous coûte pas cher, hein, très sincèrement, hein, donc on espère que les salariés seront quand même bien traités. Mais McDo embauche beaucoup de moins de 26 ans, donc c'est que du bénéfice, c'est que du profit, hein, pour la multinationale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas plu du tout à McDonald's France, ces articles, puisque la rédaction de l'Alternative Économique a répondu à McDo France, qui avait demandé un droit de réponse, qui trouve que c'est pas vrai, et qui en plus, Alternative Économique, ils ont pas fait une contre-enquête, donc c'est des vilains. Bon, oui, Alternative Économique fait des choix éditoriaux, et c'est bien, c'est plutôt bien. On va soutenir ça, et que ça plaise pas à McDo France, c'est quand même une certaine démonstration qu'il y a des gros, gros profiteurs en France, et que McDonald's en fait bien partie, a priori. Ouais.
Alors, on va faire la fin d'émission sur la société autoritaire dans laquelle on vit et qui tend vers être de plus en plus autoritaire.
Mais qui c'est pas forcément lié à la situation de là où le Covid. Hein.
Non,
c'était là avant et ce sera là après.
Voilà. Alors, on va parler d'un nouveau rapport parlementaire qui est sorti, qui a été piloté par des élus des Républicains ou de La République En Marche, donc à droite toute. Pour renforcer l'arsenal pénal contre les méchants écolos, les méchants Khmer verts. Voilà, tous ces gens-là qui font peur, qui veulent qu'on arrête de manger des animaux, tout ça. Alors, je réexplique un petit peu d'où ça vient. Donc, c'est l'Assemblée nationale. Alors, ça tombe mal, ou bien, enfin, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, l'Assemblée nationale examine la proposition de loi sur le bien-être animal. Proposition de loi qui est issue, notamment, des images montrées et des interventions montrées par des militants et des militantes qui défendent le droit aux animaux de pas trop en prendre plein la gueule. Hein, on pense à L214 ou des choses comme ça, des gens comme ça.
Oui, sur la souffrance animale. Hein,
voilà.
Des choses assez horribles, oui, qu'on a pu voir dans leurs vidéos.
Mais donc, ils n'en ont rien à faire, hein, ces députés, de ce qui est en train de se passer. A priori, ils n'étaient pas super pour. Et donc, ils ont voté en commission un rapport issu d'une mission d'information parlementaire sur, je donne le titre, l'entrave aux activités légales. En creux, certains députés veulent renforcer l'arsenal pénal contre les militants écolo, anti-glyphosate, vegan, anti-chasse, puisqu'ils ont rajouté la chasse dedans, bien évidemment. Donc ils proposent la création de nouveaux délits pour lutter plus efficacement, notamment contre la diffusion d'images sur les réseaux sociaux, on pense à le 214 et les films qu'ils ont pu tourner dans les abattoirs, et pour limiter l'intrusion dans les abattoirs et les usines fermes, ou les fermes-usines, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Ça rappelle un peu la création de la cellule Déméter l'année dernière, un groupe de répression au sein de la gendarmerie pour lutter contre les militants écolos, les militants défenseurs de la planète.
Ah ouais, c'est qu'ils ont quand même fait des trucs de dingue. Donc, ils ont quand même caché dans des faux troncs des caméras pour espionner des écolos, des militants et des militantes.
Voilà. Alors, incroyable. Ce nouveau rapport qui a été adopté mardi dernier, le 26 janvier, par les commissions de développement durable, des affaires économiques et des lois, présidé donc par, alors je le dis, les Républicains Xavier Breton, avec deux rapporteurs, Martine Le Guy-Ballois et Alain Perea, eux qui sont à La République En Marche, voilà, ces trois énergumènes ont fait voter ce rapport. Donc ce travail, c'est le fruit d'une promesse en fait qu'avait fait Pompili, donc qui est actuellement la ministre de la pseudo-transition écologique, mais qui avant faisait bien autre chose. Elle avait promis aux chasseurs une loi pour protéger la chasse. En gros, c'est ça dont il est question. Alors, dès les premières pages du rapport, hein, les auteurs du texte s'en prennent aux écolos et à leurs actions qui, je cite, stigmatisent des activités légales, comme, ils citent, hein, les OGM, la corrida, l'utilisation du glyphosate et autres produits phytosanitaires, les activités cynégénétiques ou la consommation de protéines d'origine animale. Les auteurs précisent que les avancées démocratiques ne peuvent pas se faire en imposant des idéologies par la voie d'exactions, d'attaques, de menaces ou encore de pression sur des activités légales. Alors il faudrait leur rappeler que la démocratie, des fois, elle a gagné parce qu'il y avait ce genre d'action. Mais bon, ils ont peut-être oublié un peu la révolution, la résistance et toutes ces choses-là. Donc voilà, d'après eux, ces dernières années, le nombre d'entraves à la chasse et à l'élevage industriel a explosé. Alors ils mélangent la chasse avec le reste, bien évidemment. Et ils jugent la réponse pénale trop faible. Ils trouvent donc le droit inadapté et ils veulent proposer des nouvelles sanctions, des modifications du droit. Donc ils ont pris, finalement, ils ont auditionné des gens. Alors essentiellement, les professionnels ou les amateurs de chasse. Aucune asso écolo. Alors, certes, ils avaient invité Greenpeace, France Nature Environnement et le WWF, qui ont refusé et qui ont expliqué leur refus. Et l'explication de leur refus n'apparaît pas dans le rapport. Hein, il y avait une vraie raison de boycott. Donc voilà. Donc les rapporteurs déplorent, je cite, une radicalisation des actions menées par des militants, alors eux la féminisation ils ne connaissent pas, il n'y a que des mecs, hein, des militants de plus en plus urbains, engagés dans une multitude de causes, notamment féministes. Alors ça les gêne que ça soit aussi des militants féministes, c'est drôle, en plus ils sont, enfin, voilà, bon bref, ils sont sexistes, anti-nucléaires ou anti-police. On y retrouve également les Black Blocs. Ah, mais ils font une globalisation de tout ce qui peut les énerver.
C'est marrant parce que c'est le portrait de plein de gens qui peuvent être autour de nous et que ça me fait marrer parce que pauvres de nous, quoi.
Alors, pauvres de nous. Du coup, ces gens-là font peur et sont dangereux, ils sont radicaux. Bien évidemment, dans ce rapport, rien n'est dit sur le chasseur qui tue le promeneur, qui tue le cycliste. Pour eux, ce n'est pas un acte radical. Pourtant, dans les chiffres, hein, les écolos ont tué personne, alors que les chasseurs ont un nombre de meurtres ou d'assassinats à leur tableau de chasse assez important. Et chaque année, hein, c'est pas chaque année, c'est plusieurs dizaines. C'est quand même moche. Hein. Donc, bref, le rapport parle des intrusions au sein des fermes, usines, des choses comme ça. Ils attaquent indirectement, on sait très bien, L214, 269 Libération Animale, enfin, tous ces gens qu'ils détestent, ils citent même les antispécistes. Alors, ils veulent créer un délit d'entrave à la chasse, 6 mois d'emprisonnement et 5000 euros d'amende. Hein. Les gens rentrent chez vous, ils vous tirent dessus. Vous n'avez pas le droit de les empêcher puisque c'est une entrave à la chasse. Vous êtes content. Un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour l'intrusion sur un site industriel, artisanal, agricole ou de loisirs si vous venez le perturber. Une manifestation ne sera plus possible. Donc, dans ce cadre-là, c'est sympa quand même. Enfin, voilà, je ne vais pas tout détailler. Mais ça nous rappelle la lutte contre les écolos, elle est toujours très forte. Hein, donc je rappelais tout à l'heure l'existence de cette cellule Déméter, hein, donc une sorte de milice montée au sein de la gendarmerie pour lutter spécifiquement contre les défenseurs de l'environnement. C'était assez incroyable, hein, ce truc-là. Là, les trois parlementaires, c'est pas n'importe qui. Le président est député de l'Ain, Xavier Breton. Lui, il est vraiment anti-écolo depuis le début, depuis des années. Alain Péréal, un des rapporteurs, il est coprésident du groupe Chasse, Pêche et Machin, là, tu sais, les territoires là, de l'Assemblée nationale. Donc c'est un pro-chasse. Hein. Et lui, c'est lui qui avait dit, quand un vététiste là, avait été abattu par un chasseur il y a quelques mois, il avait dit qu'il fallait interdire le VTT. Ça vous donne le niveau du mec. Pas de condamnation hein, du chasseur qui tirait sur le VTT. La rapporteuse, elle a bossé dans l'agroalimentaire, donc elle est anti-écolo, anti-bio, anti-voilà. Enfin bon, bref, on a du lourd. Et grosso modo, ils sont porte-parole de ceux qu'ils ont reçus, de la FNSEA, des gens comme ça. Voilà. Et alors, le truc, c'est que pour aller vite, ils vont essayer d'incruster leurs propositions dans différents projets de loi qui vont arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc il y a une belle alliance entre la Macronie et LR, les Républicains, contre l'écologie. Alors après, ils peuvent faire semblant d'être écolo, on a bien compris dans quel camp ils étaient. Alors toujours dans mes trucs répressifs, je vais me réjouir. J'ai le droit, hein. C'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Et ben moi, je dis que si. Quand ce sont nos ennemis, le petit facho Yvan Benedetti, bien connu à Lyon, a été placé en garde à vue à Paris pour agression en bande organisée. On rappelle, ce petit facho avait agressé des journalistes de l'émission Quotidien lors d'une manifestation anti-PMA, parce qu'en plus, il n'aime pas les homos, hein. Ils ne veulent pas qu'ils aient les mêmes droits que les autres. En octobre 2019, il était accompagné, d'ailleurs, sur les images, d'un autre petit facho, Hervé Ryssen. Donc voilà, facho, homophobe, agresseur, un petit résumé de l'extrême droite à lui tout seul, ce Benedetti. Il est mis en garde à vue, et ça me fait un immense plaisir.
C'était pas prévu, mais je vais bien te raconter une histoire de chasse.
Vas-y, raconte-moi une histoire de chasse.
On a appris que un quinquagénaire a été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans l'Hérault, à Béziers précisément. Il avait tiré sur deux partenaires de chasse. Il en avait blessé un assez grièvement hein, en octobre 2020, donc c'est pas très vieux. Alors. Donc, il était poursuivi pour blessure involontaire avec incapacité n'excédant pas 3 mois. Donc, ce qui était plutôt marrant, c'est que. On pourrait dire quand même. Ça va, il s'en sort bien. Je veux dire, voilà.
Heureusement, parce que c'est des blessures volontaires, ça veut dire qu'il l'a fait exprès.
Non, involontaire. Involontaire. Oui, mais il s'en sort bien quand même. Ouais. Heureusement, il a tué personne. Mais son fils de 14 ans, hein, parce que c'est toujours bien de mettre une arme hein, chez ton adolescent, ouais. A tiré aussi, par erreur, sur un des partenaires de chasse. Donc lui, il a un rappel à la loi. Bon, c'est un adolescent, on ne va pas le mettre en prison, bien évidemment. Mais enfin, ça pose des petites questions. Alors, il y avait deux autres chasseurs hein, qui donc ont été blessés par le quinquagénaire et donc par le fils. Alors, ils ont été condamnés à 3 ans de suspension du permis de chasse et à 200 € d'amende pour chasse non autorisée, chasse en période prohibée et non respect des prescriptions relatives à la sécurité des chasseurs et non-chasseurs. On peut quand même dire que être chasseur et faire du caca, tu t'en sors plutôt bien en fait.
Ouais, c'est ça.
Je veux dire, tu tires quand même sur quelqu'un,
énorme.
Tu blesses quelqu'un, ou alors tu vas faire de la chasse clandestine. Hein, on parle beaucoup de bars clandestins, de soirées clandestines. Là, tu vas faire de la chasse clandestine. Reprenons les mots portés aujourd'hui par les médias, en particulier de droite, et
Parce que vous imaginez, ils sont un groupe de chasseurs, il y en a un qui blesse un autre, ça s'appelle de la violence en réunion. Si vous faites ça dans la rue,
en fait, c'est surtout
avec une arme, vous morflez, mais un truc de fou. Quand t'es chasseur, tu peux, voire
en fait,
tuer même.
Il faut quand même se rendre compte qu'il y a aussi des gens pas doués qui font de la chasse aujourd'hui.
Pourtant, il y a un permis de chasse.
Ils sont en pleine nuit, on peut reparler des conditions actuelles pour l'obtenir. Ils trouvent un sanglier, ils se disent à 22h30, c'est classe, on va les chasser. Ils se mettent en deux groupes. Je sais pas dans quel état ils étaient, en tout cas ils sont dans deux groupes et du coup ils se tirent dessus, c'est quand même.
Ouais, c'est pas un haut niveau d'intelligence.
Bon,
tu veux
voilà,
dire.
Juste pour dire 2019-2020, parce que tout à l'heure tes chiffres était pas tout à fait juste. C'est 141 accidents de chasse, 11 mortels.
Bah donc c'est plusieurs dizaines, enfin c'est plus de 10.
Voilà. Si je te reprenais.
Il y a des années, c'est aux alentours de 20,
c'est
pour ça.
Pas 40, ouais. Voilà. Mais là,
c'est, plusieurs dizaines, c'est à partir de 20.
Les chiffres que je voulais te redonner.
Voilà. Du coup, j'ai pas le temps de faire mon gros sujet racisme et technologie. Par contre, on va peut-être parler d'autres mesures sécuritaires et de sociétés autoritaires. Peut-être avec la Pologne, avec les gros grosses manifestations.
Je vais parler d'autre chose parce que ça va être plus rapide. J'avais envie de parler moi aussi de cette fresque qui fait beaucoup causer à Madrid. C'est une fresque qui est peinte sur un mur depuis 2018. Sur le mur d'un centre sportif Madrid. Madrid, vous savez que c'est une ville aujourd'hui aux mains de la droite conservatrice qui a décidé, hein, pour la petite anecdote, de laisser tout ouvert contre les mesures du gouvernement actuellement au pouvoir.
Gouvernement de gauche socialiste, du coup, il y a une vraie lutte pour, pour le pouvoir.
Mais c'est vrai que c'est vraiment une municipalité conservatrice, ouais. Hein, de droite bien, bien dure. Donc c'est une fresque qui représente 15 femmes connues. On a par exemple Nina Simone, Rosa Parks, Frida Kahlo, et je ne vais pas toutes vous les citer, mais voilà, c'était une volonté des habitants de ce quartier de représenter des femmes sur ce mur, de parler des possibilités de réussir quand on est une femme, de les mettre en avant parce qu'elles sont belles, par leur travail, par leur réussite, par leur humanité, par plein de choses. Donc c'était un travail collectif, mais c'est une fresque qui ne plaît pas du tout à la droite et à l'extrême droite en Espagne et à Madrid. Pourquoi ? Parce qu'elle raconte des choses trop politiques. Il est écrit, à côté de cette fresque, « Votre capacité ne dépend pas de votre genre ».
C'est politique, ça ?
Oui, très fortement.
Oh, merde.
Alors, évidemment, c'est politique parce que ça dit quelque chose, que ça raconte quelque chose. Mais c'est surtout très gênant pour cette extrême droite qui ne veut pas entendre parler à la fois de genre et surtout de féminisme et de possibilité pour les femmes d'exister en dehors du carcan patriarcal et surtout en Espagne, où on sait qu'il y a eu un carcan patriarcal très important qui est encore là, chez nous aussi, hein, mais bon, je vais dire, qui est dénoncé. Il y a des féministes et des antisexistes qui se battent côte à côte pour faire exister cette fresque aujourd'hui, puisque l'idée, c'est donc de la masquer, précisément de repeindre dessus. C'est l'idée donc de la mairie. Et donc, tout ça est soutenu par le parti Vox, hein, d'extrême droite en Espagne, qui a donc expliqué à la mairie madrilène qu'il soutiendrait le budget de la droite conservatrice si jamais ils étaient soutenus dans toutes leurs demandes actuelles, qui étaient trop genrées, trop féministes, trop ouvert, trop LGBT, vous voyez, tout ce qui peut ne pas plaire à cette extrême droite et à la droite conservatrice. Donc c'est soutenu aussi donc, par le parti, hein, le parti populaire, hein, donc le parti conservateur, par le parti centre-droit. L'idée, c'est donc de repeindre cette fresque en y mettant une fresque plus sportive.
Ah ouais, et puis ils vont mettre que des mecs.
Je sais pas, mais en tout cas, on reviendra à des valeurs importantes, c'est-à-dire
la compétition,
le dépassement de soi, tout ce qui est quand même vachement mieux.
C'est vachement libéral.
Donc dimanche, il y a eu une manifestation devant le centre sportif, hein, c'est les habitants se sont rassemblés pour dire non. Il y a une pétition qui a été lancée, là on en était à 56 000 signatures la dernière fois que j'ai regardé, mais ça atteint même maintenant le sommet de l'État, puisque le Premier ministre espagnol a aussi donné son avis en disant que non, il fallait pas enlever cette fresque, enfin il a pas dit ça, mais c'est ce qu'il raconte dans son tweet, hein, Pedro Sanchez. Il y a donc une rivalité très forte politique, mais il y a aussi des gens sur place, localement, qui se disent « Purée, c'est notre mur !» Il faut quand même imaginer que votre centre culturel à côté de chez vous, votre MJC, vous décidez de faire une fresque, là, collectivement, tous et tout ensemble, et qu'on vient vous dire « Ah bah non, on va la reprendre, et puis nous, on va décider ce qu'on va mettre dessus à votre place. » On va donc penser à votre place, hein. C'est ça quand même qui dit aujourd'hui aux habitants et aux habitantes. Donc, il y a une vraie bataille en place. Pour l'instant, la fresque, elle est toujours là, et elle est bien partie pour y rester, je peux vous le dire. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Je suis extrêmement optimiste dans la question. Mais c'est un combat qui touche plein d'autres questions, parce que le parti Vox est en train de toucher à des fondamentaux au niveau de Madrid, mais évidemment au niveau national espagnol, la volonté, c'est vraiment de restreindre, hein, les droits qui ont pu être acquis, et puis d'empêcher que d'autres droits puissent aujourd'hui être acquis. Et il y a des mobilisations, mais voilà, on sait que partout l'extrême droite, elle nous emmerde. Partout cette droite conservatrice, elle nous emmerde. Partout, tout ça vient gêner toutes les avancées qu'on a pu avoir ces dernières décennies. Certaines commencent à dater hein, de ces acquis. Ils datent, il y en a. Et pourtant, on voit aujourd'hui un parti qui arrive et qui remet tout en question. Tout ça pour une fresque, quand même, il faut le dire. Alors oui, très vite, puisque tu veux pas faire tes petits, juste pour dire qu'on a quand même deux nouveaux pays qui restreignent encore le droit des femmes à disposer de leur corps. Vous savez qu'en Pologne, tu en avais parlé, Laurent.
Ouais, et malgré la mobilisation, la loi est passée, quoi.
Ouais, donc c'est la décision hein, du tribunal constitutionnel qui conduit donc à ce qu'il y ait
quasiment plus d'avortement.
Plus légal.
Il va falloir faire ça dans les arrière-cours ou dans
ouais,
la,
ou aller comme
ou voilà, aller à l'étranger.
Pays, aller à l'étranger, ce qui évidemment est très compliqué pour les femmes.
Ce qui fait que les riches, qui sont la classe haute là, de droite, quand elle est confrontée à ce problème-là, elle enverra ses enfants, ses filles se faire avorter dans des bonnes conditions, et les pauvres, ils n'auront plus d'alternative.
Donc tout de suite, hein, c'est le texte a été publié mercredi donc au journal officiel polonais. C'est appliqué, ça y est, c'est applicable. Ouais. Là, tout de suite, maintenant, c'est en cours. Il y a des manifestations qui ont lieu hein, depuis mercredi. Vous savez que c'est ce mouvement, la grève des femmes, qui amène aujourd'hui une grosse mobilisation. La lutte, elle n'a pas suffi, c'est quand même désespérant et triste. Et puis en Honduras, pays très très dur hein, sur le continent américain, qui aussi a une majorité conservatrice d'extrême droite, moi c'est le terme que j'emploie, a donc fait une réforme constitutionnelle carrément contre l'avortement. C'est-à-dire qu'il faudra demain, pour changer la loi,
changer la constitution.
Donc c'est pour les féministes Honduras une catastrophe, parce que c'est-à-dire que ça va devenir très très compliqué. Il y a d'autres problématiques qui arrivent et qui sont du même ordre, c'est-à-dire sur l'homosexualité, le mariage homosexuel. Tout ça est constitutionnel, c'est-à-dire que pour changer, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il y ait une majorité parlementaire qui soit extrêmement différente. Très compliqué, c'est l'ONU s'en est offusquée. Parce que là aussi les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps comme elles l'entendent, et qu'en plus de ça quand même l'avortement est criminalisé même en cas de viol ou d'inceste hein, du ras, de malformation du fœtus et même quand la vie de la femme est en danger, c'est-à-dire que là on dépasse même un certain nombre de pays hein. Alors il faut savoir hein, que l'avortement est interdit depuis 1982 dans le pays, Honduras, mais là, ça vient quand même marquer très fortement une interdiction, et même les luttes à venir. On pensait que avec la législation qui avait fait du progrès en Argentine, on allait pouvoir évoluer, et ben, ce n'est pas le cas. Nous allons donc terminer cette émission là-dessus. Nous sommes contents d'avoir pu quand même être en direct avec vous dans de nouvelles conditions, certes, mais quand même, c'était vachement bien. Ouais, enfin voilà, on fait ce qu'on peut hein, quand même. On vous souhaite une bonne soirée. On vous rappelle que les autres émissions font aussi ce qu'elles peuvent, soit en étant pré-enregistrées et donc diffusées dans les meilleures conditions, bien évidemment. Pour beaucoup d'émissions, elles sont diffusées en direct. Et puis évidemment, il y a les très fameuses bandes continues qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est la meilleure musique du monde. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao !